Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 12, chapitre 13. Progrès à Montbéliard, résistance et trouble, Toussaint quitte Ecolampade, la journée du pont, mort d'Anémont, défaites successives. L'attention que Farel donnait à la France ne le détournait pas des lieux où il vivait. Arrivé à Montbéliard vers la fin de juillet 1524, il y avait à peine répandu la semence que, comme s'exprime Ecolampade, les prémices de la moisson commençaient déjà à paraître. Farel, tout joyeux, l'écrivit à cet ami. « Il est facile, répondit le docteur de Bâle, de faire entrer quelques dogmes dans les oreilles des auditeurs. Mais changer leur cœur est l'œuvre de Dieu seul. » Le chevalier de Cocte, ravi de ces nouvelles, se rendit avec sa vivacité ordinaire chez Pierre Toussaint. « Je pars demain pour aller voir Farel, » dit-il précipitamment à Toussaint. Celui-ci, plus calme, écrivit à l'évangéliste de Montbéliard. « Prenez garde, » disait-il à Farel, « c'est une grande cause que celle que vous soutenez. » Elle ne veut pas être souillée par des conseils d'hommes. Les puissants vous promettent leur faveur, leur secours, des monts d'or. Mais se confier en ces choses, c'est déserter Jésus-Christ et marcher dans les ténèbres. Toussaint terminait cette lettre quand le chevalier entra. Celui-ci la prit et partit pour Montbéliard. Il trouva toute la ville dans une grande agitation. Plusieurs des grands, effrayés, disait en regardant dédaigneusement Farel, « Que nous veut ce pauvre air ? Plût à Dieu qu'il ne fût jamais venu. Il ne peut rester ici, car il nous perdrait tous avec lui. » Ces seigneurs réfugiés à Montbéliard avec le duc craignaient que le bruit qui accompagnait partout la Réformation, attirant sur eux l'attention de Charles Quint et de Ferdinand, ils ne fussent chassés de leur dernier asile. Mais c'était surtout le clergé qui résistait à Farel. Le gardien des franciscains de Besançon était accouru à Montbéliard et avait formé un plan de défense avec le clergé du lieu. Le dimanche suivant, Farel avait à peine commencé à prêcher qu'on l'interrompit, l'appelant un menteur et un hérétique. Aussitôt toute l'assemblée fut en émoi. On se levait, on demandait silence. Le duc accourut, fit saisir le gardien et Farel, et ordonna au premier ou de prouver ses accusations ou de les rétracter. Le gardien choisit ce dernier parti, et un rapport officiel fut publié sur toute cette affaire. Cette attaque enflamma encore plus Farel. Il crut dès lors devoir démasquer sans ménagement ses prêtres intéressés. Et tirant le glaive de la parole, il en frappa des coups vigoureux. Il était plus porté à imiter Jésus quand il chassait du temple les vendeurs et les changeurs et renversait leurs tables que quand l'esprit prophétique lui rendait ce témoignage. Il ne conteste point, il ne crie point, on n'entend point sa voix dans les rues. Ecolampade fut effrayé. On trouvait en ces deux hommes deux types parfaits de deux caractères diamétralement opposés et pourtant tous deux dignes d'admiration. « Vous avez été envoyé, écrivit Ecolampade à Farel, pour attirer doucement les hommes à la vérité, et non pour les y traîner avec violence, pour évangéliser, et non pour maudire. Les médecins ne se servent des amputations que lorsque les applications sont inutiles. Comportez-vous en médecin, et non en bourreau. Ce n'est pas assez pour moi que vous soyez doux envers les amis de la parole. Il vous faut encore gagner ses adversaires. Si les loups sont chassés de la bergerie, que les brebis du moins entendent la voix du berger. Versez l'huile et le vin dans les blessures et conduisez-vous en évangéliste et non en juge et en tyran. » Le bruit de ces travaux se répandait en France et en Lorraine et l'on commençait à s'alarmer à la Sorbonne et chez le cardinal de cette réunion de réfugiés de Bâle et de Montbéliard. On eût voulu rompre une alliance inquiétante, car l'erreur ne connaît pas de plus grand triomphe que d'attirer à elle quelques transfuges. déjà Martial Mazurier et d'autres avaient procuré à la papauté gallicane la joie que donnent de honteuses défections. Mais si l'on parvenait à séduire l'un de ces confesseurs de Christ, réfugiés sur les bords du Rhin, qui avaient beaucoup souffert pour le nom du Seigneur, quelle victoire pour la hiérarchie pontificale! Elle dressa donc ses batteries, et ce fut au plus jeune qu'elle visa. Le primicier, le cardinal de Lorraine, et tous ceux qui se réunissaient au cercle nombreux tenu chez ce prélat, déploraient le triste sort de ce Pierre Toussaint, qui leur avait donné tant d'espérance. « Il est à Bâle, disait-on, dans la maison même de Colampade, vivant avec l'un des chefs de l'hérésie. » On lui écrivait avec ferveur, et comme s'il se fût agi de le sauver de la condamnation éternelle. Ces lettres tourmentaient le pauvre jeune homme, d'autant plus qu'il ne pouvait s'empêcher d'y reconnaître une affection qui lui était chère. L'un de ses parents, probablement le primicier lui-même, le sommait de se rendre à Paris, à Metz ou en quelque lieu que ce fût au monde, pourvu que ce fût loin des luthériens. Ce parent, qui savait tout ce que Toussaint lui devait, ne doutait pas qu'il n'obéît aussitôt à ses ordres. Aussi, quand il vit ses efforts inutiles, son affection se changea-t-elle en une violente haine. En même temps, cette résistance exaspéra contre le jeune réfugié toute sa famille et tous ses amis. On se rendit auprès de sa mère, qui était sous la puissance du capuchon. Les prêtres l'entourèrent, l'effrayèrent, lui persuadèrent que son fils avait commis des actions que l'on ne pouvait dire qu'avec horreur. Alors cette mère désolée écrivit à son fils une lettre touchante, pleine de larmes, dit-il, et où elle lui peignait d'une manière déchirante tout son malheur. « Ah, malheureuse mère, disait-elle, ah, fils dénaturé, maudit soit le sein qui t'a allaité, et maudit soient les genoux qui t'ont reçu. » Le pauvre Toussaint était consterné. Que faire ? Retourner en France ? Il ne le pouvait. Quitter Bâle pour se rendre à Zurich ou à Wittenberg, hors de la portée des siens. Il eût ainsi augmenté leur peine. Colampade lui suggéra un terme moyen. « Quittez ma maison, » lui dit-il. Il quitta en effet Colampade, le cœur plein de tristesse, et alla demeurer chez un prêtre ignorant et obscur, bien propre à rassurer ses parents. Quel changement pour Toussaint! Ce n'était qu'à table qu'il rencontrait son hôte. Il ne cessait alors de débattre sur les choses de la foi. Mais, le repas fini, Toussaint courait de nouveau s'enfermer dans sa chambre. Et là, seul, loin du bruit et des disputes, il étudiait avec soin la parole de Dieu. « Le Seigneur m'est témoin, disait-il, que je n'ai, dans cette vallée de larmes, qu'un désir, celui de voir le règne du Christ se répandre, en sorte que tous, d'une seule bouche, glorifient Dieu. » Une circonstance vint consoler Toussaint. Les ennemis de l'Évangile devenaient toujours plus forts dans Metz. Sur ces instances, le chevalier d'Esch partit, dans le courant de janvier de l'an 1525, pour fortifier les chrétiens évangéliques de cette ville. Il traversa les forêts des Vosges et arriva sur les lieux où Leclerc avait donné sa vie, apportant avec lui plusieurs livres dont l'avait fourni Farel. Ce n'était pas seulement sur la Lorraine que les réfugiés français tournaient leur regard. Le chevalier de Cocte recevait des lettres de l'un des frères de Farel qui lui dépeignait, sous de sombres couleurs, l'état du Dauphiné. Il se gardait bien de les montrer, de peur d'épouvanter les faibles, et se contentait de demander à Dieu, avec ardeur, le secours de ses puissantes mains. En décembre 1524, un messager dauphinois, Pierre Verrier, chargé de commission pour Farel et pour Anémon, arriva à cheval à Montbéliard. Le chevalier, avec sa vivacité habituelle, forma aussitôt le dessein de rentrer en France. « Si Pierre a apporté de l'argent, écrivit-il à Farel, prenez-le. Si le dit Pierre me apporter des lettres, ouvrez-les et en retenez le double, et puis les me envoyez. Néanmoins, ne vendez pas le cheval, mais le retenez, car par aventure en aurait affaire. Je serai d'opinion d'aller secrètement en France par Devers Jacobus Faber, Lefebvre, et Arandius. Écrivez-m'en votre avis. Telles étaient la confiance et l'abandon qui régnaient entre ces réfugiés. L'un ouvrait les lettres de l'autre et recevait son argent. Il est vrai que de Cocht devait déjà 36 écus à Farel, dont la bourse était toujours ouverte à ses amis. Il y avait plus de zèle que de sagesse dans le désir du chevalier de retourner en France. Il était d'un caractère trop imprudent pour ne pas s'exposer ainsi à une mort certaine. C'est ce que sans doute Farel lui fit comprendre. Il quitta Bâle et se retira dans une petite ville où il avait grande espérance d'avoir le langage germain, Dieu aidant. Farel continua à évangéliser Montbéliard. Son esprit s'aigrissait en lui-même, en considérant que la majorité du peuple de cette ville était entièrement adonnée au culte des images. C'était, suivant Farel, l'antique idolâtrie du paganisme qui se renouvelait. Cependant, les exhortations de Colampade et la crainte de compromettre la vérité l'eussent peut-être longtemps retenu sans une circonstance imprévue. Un jour, vers la fin de février, c'était la fête de Saint-Antoine, Farel marchait près des bords d'une petite rivière qui traverse la ville, au-dessous du rocher élevé que la citadelle domine. Lorsque, arrivé sur le pont, il rencontra une procession qui s'avançait, récitant des prières à Saint-Antoine et ayant en tête deux prêtres avec l'image de ce saint. Farel se trouvait ainsi tout à coup face à face de ses superstitions, sans pourtant les avoir cherchées. Il se livra alors dans son âme un violent combat. Cédera-t-il ? Se cachera-t-il ? Mais ne serait-ce pas une lâche infidélité ? Ces images mortes portées sur les épaules de prêtres ignorants font bouillonner son cœur. Farel s'avance avec hardiesse, enlève des bras des prêtres la châsse du Saint-Ermite et la jette du haut du pont dans la rivière. Puis, se tournant vers le peuple étonné, il s'écrie « Pauvres idolâtres, ne l'errez-vous, laisserez-vous jamais votre idolâtrie ?» Les prêtres et le peuple s'arrêtent consternés. Une crainte religieuse semble enchaîner la multitude. Mais bientôt cette stupeur cesse. « L'image se noie !» s'écrie quelqu'un de la foule. Et alors, à l'immobilité et au silence, succèdent des transports et des cris de fureur. La foule veut se précipiter sur le sacrilège qui vient de jeter à l'eau l'objet de son adoration. Mais Farel, nous ne savons comment, échappe à sa colère. On peut, nous le comprenons, regretter que le réformateur se soit laissé entraîner à cette action qui arrêta plutôt la marche de la vérité. Nul ne doit se croire en droit d'attaquer par violence ce qui est d'institution publique. Cependant, il y a quelque chose de plus noble dans le zèle du réformateur que dans cette froide prudence, si commune, qui recule devant le moindre péril et craint de faire le moindre sacrifice à l'avancement du règne de Dieu. Farel n'ignorait pas qu'il s'exposait ainsi au danger de perdre la vie, comme le clerc. Mais le témoignage que lui rendait sa conscience de ne chercher que la gloire de Dieu, l'éleva au-dessus de toutes les craintes. Après la journée du pont, qui est un trait si caractéristique de l'histoire de Farel, le réformateur fut contraint de se cacher, et bientôt après, de quitter la ville. Il se réfugia à Bâle auprès de Colampade, mais il eut toujours, pour Montbéliard, l'affection qu'un serviteur de Dieu ne manque jamais de ressentir pour les prémices de son ministère. Une triste nouvelle attendait Farel à Bâle. S'il était fugitif, Anémon de Cocht, son ami, était grièvement malade. Farel lui envoya aussitôt 4 écus d'or. Mais une lettre écrite le 25 mars par Oswald Myconius lui annonça la mort du chevalier. « Vivons, lui écrivait Oswald, de manière à ce que nous entrions dans le repos où nous espérons que l'esprit d'Anémon est déjà entré. » Ainsi, Anémon, jeune encore, plein d'activité, plein de force, désireux de tout entreprendre pour évangéliser la France, et qui valait à lui seul toute une armée, descendait dans une tombe prématurée. Les voix de Dieu ne sont point nos voix. Il n'y avait pas longtemps que près de Zurich aussi, un autre chevalier, Ulrich de Hutten, était venu rendre le dernier soupir. On trouve quelques rapports de caractère entre le chevalier allemand et le chevalier français. Mais la piété et les vertus chrétiennes du Dauphinois le placent bien au-dessus du spirituel et intrépide ennemi du pape et des moines. Peu après la mort d'Anémon, Farel, ne pouvant rester à Bâle, d'où il avait été autrefois banni, se rendit à Strasbourg auprès de ses amis Capiton et Bucer. Ainsi, à Montbéliard et à Bâle, comme à Lyon, des coups étaient portés dans les rangs de la Réforme. Parmi les combattants les plus dévoués, les uns étaient enlevés par la mort, les autres par la persécution ou l'exil. En vain, les soldats de l'Évangile tentaient-ils de tous côtés l'assaut. Partout, ils étaient repoussés. Mais si les forces qu'ils avaient concentrées, d'abord à Meaux, puis à Lyon, ensuite à Bâle, étaient successivement dissipées, il restait çà et là des combattants qui, en Lorraine, à Meaux, à Paris même, luttaient plus ou moins ouvertement pour maintenir en France la parole de Dieu. Si la Réformation voyait ces masses enfoncées, il lui demeurait des soldats isolés. C'était contre eux que la Sorbonne et le Parlement allaient diriger leur colère. On voulait qu'il ne restât rien sur le sol de la France de ces hommes généreux qui avaient entrepris d'y planter l'étendard de Jésus-Christ. Et des malheurs inouïs semblèrent se conjurer alors avec les ennemis de la Réforme et leur prêter main-forte pour achever leur œuvre.